10h44. Bon, le Canadien est éliminé, on le sait. Mais quand même tout un match hier et on en parle avec Philippe Quentin. Salut Philippe.
Salut Mathieu.
Ouais, je veux pas, on s'attardera pas nécessairement très longtemps sur le match d'hier puisqu'il était assez insignifiant, mais on a eu droit à quelque chose d'au moins le fun, c'est que ça a mis un peu de lumière sur la saison prochaine.
Ben, tout à fait, un feu d'artifice de Ryan Poehling. Personne ne pouvait prédire un scénario semblable et ça fait une très belle soirée pour les gens qui étaient au Centre Bell, les gens qui ont regardé le match à la télé. Ça permet à tout le monde de peut-être de faire un premier bilan avec un petit peu plus d'optimisme parce qu'on sait qu'on carbure toujours à ça, à la jeunesse, à la relève qui s'en vient. On le dit souvent et c'est vrai, chez le Canadien pour la première fois depuis des années, on sent qu'il y a une relève digne de ce nom. Le dire, c'est une chose, mais le voir sur la patinoire comme hier soir de façon aussi inattendue, c'est une marche supplémentaire là, qui est gravie. Alors, c'est certain que c'est réconfortant, mais encore une fois, soyons prudents. Ça ne veut pas dire que Ryan Poehling va marquer 35 buts la saison prochaine, mais on a vu...
Non, j'ai calculé, moi, 246.
Ouais, c'est ça. 3 fois 82. Mais il y a des choses quand même qu'on a vues. D'abord, son lancer, c'est un lancer d'un vrai bon tireur de la Ligue nationale. Un lancer qui décoche sans avertissement, très précis, assez puissant aussi. Alors, il y a des atouts, c'est clair, et c'est sûr que c'est prometteur.
Bon, parlons un peu de ce qui s'en vient. Si on fait le bilan de cette saison aussi... Je veux t'entendre là-dessus. Puis on a dit, c'était une saison quand même de surprise parce que moi, je vais être bien franc avec toi, le Canadien, je le voyais découdre avec les Sénateurs d'Ottawa et les autres équipes de fond de classement.
Oui, ça a été mieux que ça, évidemment. Moi, je ne pensais pas qu'il participerait aux séries éliminatoires, mais je pensais qu'il serait détaché au classement un petit peu plus tôt. Moi, je me disais qu'au mois de mars, là, quand le mois de mars allait commencer, il serait sans doute plus là. Alors, ça a été bien tout à fait le contraire. Ils ont été là jusqu'au début du mois d'avril. Alors, bravo. Mais c'est drôle, Mathieu. Depuis plusieurs années, je ne me souviens pas d'une fin de saison où on peut faire l'analyse de dresser un premier bilan de façon en défendant deux théories complètement à l'opposé et les deux théories se tiennent. Tu sais, à chaque année, comme l'an dernier, ça allait mal, tout le monde était d'accord, tout le monde dressait le même bilan un peu la même chose après la désastreuse saison 2016, un peu la même chose après 2017. Mais cette année, il y a vraiment deux façons de regarder ça. Il y a la façon, tu sais, la vieille théorie du verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié plein, on en parlait tantôt. C'est Ryan Poehling, c'est Kotkaniemi, c'est Tatar, c'est Domi, c'est l'amélioration considérable qu'on a vue chez le Canadien cette saison. C'est le fait qu'il y a de l'enthousiasme, c'est le fait qu'il y a eu de la résilience, de la combativité, c'est le fait que Marc Bergevin a réussi deux bons échanges l'été dernier en allant chercher Tatar et Domi. Et puis bon, peut-être qu'il va poursuivre sur cette lancée-là au cours des prochaines semaines. Ça, c'est la théorie du verre à moitié plein. On entrevoit l'avenir avec optimisme. Il y a de la relève, il y a pas seulement Poehling, mais il y a Romanov en Russie, puis il y a Brook dans la Ligue américaine, puis il y a Suzuki peut-être qui jouera à Laval ou peut-être mieux encore l'an prochain. Alors, tout ça, c'est positif. Par contre, il y a la théorie du verre à moitié vide aussi. Et il en reste pas moins là, que malgré tout, ça fait trois fois en quatre ans que le Canadien ne participe pas aux séries éliminatoires dans une ligue, Mathieu, dans une ligue où la moitié des équipes, même un peu plus de la moitié des équipes participent aux séries. Donc, on peut pas dire que... Tu sais, on dit, hey, c'est dur faire les séries dans la Ligue nationale. C'est tout de même moins dur qu'au baseball ou que dans la NFL. Oui, tu as plus de la moitié des équipes. Alors, je trouve que oui, c'est une grosse marche à franchir, mais c'est pas une marche qui est supposée être si colossale que ça non plus. Alors, trois fois en quatre ans, ça m'apparaît beaucoup. C'est sûr que c'est peut-être pas le même environnement, mais il en reste pas moins que ça existe. Et là, l'autre problème que je vois avec le Canadien, et ça, je dois t'avouer que ça m'agace, c'est que je trouve depuis plusieurs années que le Canadien, peut-être pas vraiment de façon consciente, mais a l'excuse un peu facile. Tu sais, et je me souviens après la saison...
Tu veux dire quoi?
Ben, regarde hier, par exemple. Moi, ça m'a agacé un peu d'entendre Claude Julien deux fois dans la journée, après l'entraînement du matin, puis après le match, dire... Hey, écoutez, là, je veux pas me prendre ça comme excuse, mais il en reste pas moins que si, tu sais, dans la conférence de l'Ouest, il y a des équipes qui ont moins de points que nous autres qui vont participer aux séries. Tu sais, regarde, c'est pas de même que ça fonctionne. C'est bien plate, là, mais c'est pas ça. On le sait depuis le début de l'année que c'est pas ça. Alors ça, c'est je trouve que c'est comme des excuses un peu bidons. Ben oui, si on était dans l'Ouest, mais Montréal, c'est à Montréal, puis c'est pas à Los Angeles. Tu sais, on joue dans l'Est. Alors, faisons avec. Et je trouve que ça
soyons honnêtes, pendant des années, l'Ouest était pas mal plus fort que l'Est aussi.
Ben,
là.
C'est ça, exactement. Puis il y a des équipes qui ont eu des bonnes saisons, qui n'ont pas participé aux séries, peut-être qui auraient mérité de l'être. Alors, tu sais, je trouve ça, je comprends, je m'explique mal mal ce type de raisonnement-là. Puis ça me rappelle ce que j'ai entendu en 2017, quand le Canadien a été éliminé par les Rangers de New York en une ronde, en six matchs. Le bilan de fin de saison, à certains égards, pas dans tout, mais à certains égards, j'avais trouvé ça un peu surréaliste parce que j'ai entendu plusieurs fois Marc Bergevin et Claude Julien, en tout cas le dire avec beaucoup d'affirmation, que le Canadien avait eu beaucoup plus de chances de marquer que les Rangers, puis que la série avait été beaucoup plus serrée. Puis, tu sais, regarde, tu perds en six matchs, là. T'as tout de même pas perdu dans le septième match en double prolongation. Tu sais, alors, je trouve que les excuses un peu, en 2016, la très mauvaise année 2016, la direction nous dit on a beaucoup appris, puis tout à coup, après 45 minutes, là, c'est comme si le chat sortait du sac. Marc Bergevin dit, écoutez, là, on peut parler, là, mais il en reste pas moins que si Carey Price avait pas été blessé, on serait pas ici aujourd'hui, puis on serait en série. Ben, peut-être pas. Regarde, Carey Price, il était là toute l'année, cette année, puis le Canadien a pas été en série. Je trouve qu'il y a des dogmes chez le Canadien. Avec Carey Price, tout est possible. Avec ça, on le répète tout le temps. Oui. Mais Price, il était là toute l'année. Ben, tout n'a pas été possible. Et parce que Price, il est humain, il a été formidable dans les trois derniers quarts de la saison. Il était un petit peu moins bon dans le premier quart. Peut-être qu'il a, il y a quelques points qui ont été échappés. Je remets pas son question en cause, son rendement. Il a été exceptionnel. Mais c'est encore cette espèce de théorie avec Carey Price, tout est possible. Non, il y a des problèmes plus profonds chez le Canadien, des manques plus profonds. Puis je pense qu'il va falloir qu'il les regarde en face. Je pense qu'ils l'ont fait l'été dernier, quand ils ont échangé Galchenyuk et Pacioretty. Bravo, ça a été de loin le meilleur été de Marc Bergevin depuis plusieurs années. Mais il y a eu d'autres étés où il y avait eu un petit peu d'auto-satisfaction, pas nécessairement de lui seul, mais je parle d'une auto-satisfaction organisationnelle. Et puis, on n'a pas senti que pendant l'été, l'équipe avait été très proactive. Je me souviens, en 2015, par exemple, le Canadien participe à deux rondes éliminatoires, est éliminé par Tampa Bay en deuxième ronde, puis pendant l'été, on n'a presque pas touché là à l'équipe, puis pourtant, les problèmes offensifs à ce moment-là étaient clairs, étaient évidents. Alors, Quel Marc Bergevin verrons-nous au cours des prochaines semaines? Souhaitons que ce soit le Marc Bergevin de l'été 2018, de l'été dernier, qui a été formidable, je le répète. Deux transactions extraordinaires. Mais j'ai hâte de voir quand même.
Moi, j'ai hâte de voir parce qu'il y a une... je pense que sur la, un des éléments, moi, qui m'a déçu cette année, qui, puis Dieu sait, je le répète, là, ils ont beaucoup mieux performé que ce à quoi je m'attendais. Mais un élément que j'ai trouvé un petit peu décevant, c'est que puisque l'équipe performait très, 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 très bien et au-delà des attentes, c'était la date limite des transactions. Je parle pas de vider le club et d'aller chercher pour des joueurs de location à pu finir. Mais je sais pas jusqu'à quel point les joueurs s'attendaient pas d'avoir un petit coup de main à un moment donné.
Ça, c'est super intéressant ce que tu mentionnes. Moi, à la date limite de la transaction, j'étais de l'école que non, on donne pas de choix au repêchage, on donne pas de jeunes joueurs, parce que pour la première fois depuis longtemps, il y a de la relève qui s'en vient, de la relève prometteuse. Alors gardons-les, ne la donnons pas avant de pouvoir véritablement l'évaluer. D'autant plus qu'on est dans une saison où même si tu fais une transaction à la date limite, je pense pas que le Canadien avait des chances réelles de remporter la Coupe Stanley. Même sortir de la division, entre guillemets, battre Tampa Bay, si le Canadien était resté, là, on ne reprendra pas toute la formule des séries, mais en fait, si le Canadien avait joué contre Tampa Bay, on sait tous que ça aurait été très, 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 très difficile. Alors, d'un certain côté, puisque je pense que la saison ne se serait pas prolongée très longtemps en séries éliminatoires, je suis plutôt content qu'ils aient gardé leurs actifs, parce que je pense que l'an prochain, la possibilité d'aller plus loin en série va être meilleure. Cela dit, ce que tu dis a certainement eu un impact. Parce que les joueurs, eux, ils pensent pas à l'an prochain, puis à dans deux ans, puis à dans trois ans. Ça, c'est le rôle du directeur général. Les joueurs, puis l'entraîneur, eux, ils pensent au présent, à qu'est-ce qui se passe. Et quand tu vois d'autres équipes qui vont chercher des joueurs, d'autres équipes qui, les gars, ils regardent ça dans le vestiaire, tu vois, telle équipe, sont allés chercher tel joueur, puis, tu vois Columbus, Matt Duchesne, puis tout ça. Puis que toi, ton équipe, reste là, ne fait que des acquisitions de moindre importance, c'est sûr que tu dis, coudonc, est-ce que la direction y croit vraiment? Est-ce qu'on a le coup de pouce qu'on souhaite? Et peut-être, effectivement, que ça laisse des traces pendant quelques jours au sein d'une équipe. C'est possible de le croire. Et je pense que pour des joueurs chez le Canadien, il y a deux joueurs vedettes chez le Canadien qui sont déjà dans la deuxième moitié de leur carrière en raison de leur âge. Là, c'est Carey Price et Shea Weber. Mm-hmm. Pour eux autres, c'est clair que là, les années commencent à filer, là. Oui. Les années commencent à filer. Là. Kotkaniemi, lui, il regarde ça, j'ai 15 ans pour gagner une Coupe Stanley. Tu sais, Price, lui, il n'a plus 15 ans pour gagner une Coupe Stanley. Puis Weber, il n'a certainement pas 15 ans encore. Alors, tu sais, pour eux, il y a un sentiment d'urgence. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que ce sentiment d'urgence soit comblé un peu ou qu'on trouve que leur patron trouve une solution à la date limite des transactions? Peut-être. Je ne sais pas s'ils vont nous le dire au bilan, mais c'est sûr que c'est potentiellement un événement, là, l'espèce d'inaction qu'il y a eu de pas aller chercher un élément plus fort à la date limite des transactions, que ça peut être coûter une place en série.
Philippe, il nous reste 2 minutes, puis je vais te poser des questions assez en rafale pour les prochaines, OK? Je vais te nommer 5 joueurs qui ont tous ce point en commun. Ce sont des joueurs autonomes sans compensation. Antiniemi, on parle ici de Christian Follin, Jordy Benn, Nate Thompson. Il y a Jordan Wheel également. Eux, ils sont sans compensation.
Ben, je pense que oui, il a prouvé qu'il pouvait aider le Canadien. On verra ce que Marc Bergevin va faire. Mais il a fait, c'est un gars qui a fait bonne impression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ben, tu sais, ça dépend. C'est toujours
la même
chose.
Ben.
Non, c'est ça. Puis c'est quoi ta solution de rechange? Là? C'est quand même un gars d'expérience qui joue des minutes. T'sais, ça me fait penser au baseball. T'sais, quand on dit un lanceur, lui, il lance des manches. Là. Ouais. C'est peut-être pas un champion, mais il est capable de prendre du travail. Alors, moi, je pense que ces deux joueurs là, potentiellement, mériterait de revenir.
Dans les autres qui sont avec compensation, ou c'est, on parle de agent libre avec compensation, Yoel Armia, une très bonne saison.
Ouais. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier qu'Armia aussi, c'est un physique un peu plus imposant dans une équipe qui en a besoin. Là.
Lekkonen, Charles Hudon, Brett Kulak, Mike Riley.
Bon, Lekkonen, oui, tu sais, de toute façon, si c'est pas ici, si on écoute Marc Bergevin, il paraît qu'il est très en demande partout dans la Ligue nationale. Alors, c'est une monnaie d'échange, c'est sûr que tu le gardes, mais je pense qu'il a bien joué en fin de saison. Charles Hudon, je lui souhaite sincèrement d'avoir une chance ailleurs parce qu'il est là, dans le moment, il l'a pu à Montréal. Puis, je pense que pour lui-même, là, avoir un nouvel air, ça lui ferait du bien.
Monsieur Quentin, merci infiniment.
Hey, ça a été bien le fun.
Et puis, on va regarder les séries.
Ben oui, tout à fait. Ça commence mercredi. Je regardais l'horaire, là. Ça va être le fun. Quand on aime le hockey, c'est une belle période.
Hey, merci beaucoup, Philippe.
Salut, Mathieu.
Salut, bien à la prochaine. Merci à Fred Perron à la réalisation. François Arnois à la recherche à samedi prochain. Bye.